Tous été accueillis par le Seigneur en ces instants et en ce lieu qu'il a tout spécialement préparé pour nous, pour nous accueillir, pour nous apporter sa parole, mais aussi pour qu'il se réjouisse de notre présence et de nos chants, de nos prières et de la lecture de sa sainte parole. Guerre et paix avec Dieu. C'est vrai que c'est bientôt... commémoration du D-Day, et il y a plusieurs choses qui sont venues à ma mémoire en ces moments, je me souviens encore que quelques jours après mon incorporation au service militaire, à l'époque où ça existait encore, donc je me suis retrouvé en Allemagne pour servir la patrie, comme on dit. Je me suis dit, mais c'est vrai ce texte, c'est un texte militaire. En tout cas, la deuxième partie. La première partie est très importante aussi pour l'introduction, qui souligne la responsabilité de chacun. Et là, je me suis dit, waouh, je suis arrivé à l'armée. À l'époque, j'avais un peu plus de cheveux qu'aujourd'hui. Certes. J'en ai beaucoup moins aujourd'hui. Et ils étaient sûrement aussi, et certainement, beaucoup plus longs. Mais quand je suis arrivé à l'armée, il n'y avait pas de différence. Tout le monde passait entre les mains de notre coiffeur détesté, n'est-ce pas ? Qui nous a fait une coupe très allégée, comme on dit. Très aérée. Hein, 4 mm de cheveux sur la tête. Ça change un homme, comme on dit. En tout cas, ça change son apparence physique. Alors, après toutes ces différentes étapes, hein, de couper les cheveux, de... vaccination à la queue leu-leu à l'époque, avec la même aiguille, on vaccinait 4-5 personnes tant que la seringue n'était pas vide. Enfin bon, aujourd'hui, c'est impensable, mais ça existait. Donc on a commencé à passer à la queue leu-leu, puis on a commencé à nous donner tout un tas de choses. Hein. Alors on nous a donné déjà un grand sac, et puis à l'intérieur duquel on passait devant des stands, hein, on va dire, et puis à chaque fois, on nous a mis des sous-vêtements, on nous a mis des vêtements, des sous-vêtements, des survêtements. On nous a mis un tri, on nous a donné des rangers, on nous a donné un casque léger, puis un casque lourd, et puis une casquette, et puis un imperméable, et puis une tenue de protection, pas seulement contre la pluie, mais aussi contre les produits chimiques. On nous a donné un sac avec un masque à gaz à l'intérieur, enfin tout un tas de parfait attirail du gentil soldat. Et dernière étape, nous sommes passés à l'armurerie, et là on nous a remis un fusil, une ceinture, une boussole, un sac à dos, des gants, et j'en passe, ainsi de suite. Nous étions prêts, comme on dit, à faire la guerre, même sans savoir ce que ça représentait réellement, et surtout ce qui allait nous attendre, ce qui nous attendait dans les jours à venir. Alors certes, avec tout ça, bon, qui pesait à l'époque, j'avais mon poids en matériel. Et il fallait mettre tout ça sur son dos. Donc j'avais de quoi me défendre. Certes, on aurait dit une tortue, mais j'étais prêt. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est... Alors, faire la guerre, c'est pas seulement se défendre, oui, c'est aussi attaquer. Et une des philosophies de l'armée résidait dans cette phrase: pour avoir la paix, une nation doit s'entraîner à faire la guerre. Ironique, peut-être, sûrement, mais pas tant que ça. Parce qu'il y a un enseignement tiré dans cela. Et nous allons faire le lien, bien sûr, avec les versets que nous avons lus tout à l'heure. Alors, de tout temps, l'homme a cherché à dominer l'autre. Toujours ce sentiment de « je suis supérieur à l'autre ». D'où ça vient ? On sait d'où ça vient. Satan, avec toutes ces choses qu'il a mis dans le cœur de l'homme. La haine, la vengeance, l'orgueil, et là, la domination de l'autre. Et a développé toute une stratégie pour y parvenir. Il s'est équipé au fur et à mesure des temps, des airs, de boucliers, de casques, d'armures, de bois, de fer, d'acier, pour mieux se défendre, mais aussi développer des armes pour attaquer. Des cailloux, des pierres, puis des plus grosses, et puis des lances, des flèches, des balles, des fusils, des fusées, des missiles. Et j'ai mis etc. parce que la guerre moderne est aussi une guerre technologique d'ordinateur. Et sans compter la biochimie et compagnie. L'homme s'est rendu compte aussi que seul il ne pouvait vaincre l'ennemi. Alors il a étudié des plans de bataille, de plus en plus subtils. Hein, au départ, c'était « Allez, on y va !» Et on chargeait tout le monde un petit peu en désordre, chacun avec l'équipement qu'il avait. Certains couraient plus vite, d'autres moins vite, ainsi de suite. C'était un petit peu voilà, la vague vers l'ennemi. Et puis tout le monde se rentrait dedans et après on comptait les morts. Et petit à petit, on s'est aperçu que une horde barbare qui se jetait sur une armée bien organisée, ça devenait de moins en moins évident. Parce qu'en face d'eux, il y avait une structure. L'efficacité de la troupe bien organisée avait fait ses preuves. Les ruses, l'encerclement, la division d'un petit nombre avaient le dessus sur le désordre de l'ennemi et sur le nombre de l'ennemi. Mais quand l'adversaire était lui aussi rusé, alors là, la bataille était beaucoup plus difficile à vaincre, à gagner. Vous voyez un petit peu, chaque fois, quel enseignement, quel ordre on va développer dans tout cela. Quand on reste sur la défensive, là, dans son coin, statiquement, on reste à la merci des ruses de l'adversaire. On ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il va employer comme méthode, par quel endroit, il va arriver, devant, sur les côtés, derrière, peut-être par le dessus, peut-être par le dessous, et on ne sait pas quand. Mais quand on va à l'attaque, on a la supériorité et l'initiative de la bataille. On se donne les moyens de gagner la bataille. Et là, Paul compare, encourage les Éphésiens et les compare à une armée. On dit, voilà, vous êtes l'armée de Dieu. Et je vous dis, comment vous devez être équipé et comment vous devez vous équiper et comment vous devez attaquer. Paul exhorte les Éphésiens à se mobiliser comme en temps de guerre. C'est pour ça qu'il utilise l'image de la bataille, de la guerre. Il veut aussi sous-entendre que s'il parle de cela, c'est qu'il y a du danger. C'est qu'on n'est pas en temps de paix. C'est que la guerre est autour de soi. Pas forcément contre un ennemi armé comme un soldat. Paul leur annonce que la lutte est inégale, car elle n'est pas d'homme à homme, pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances maléfiques. Ce qui ne rend pas la tâche facile, me direz-vous, car comment lutter contre un adversaire qu'on ne voit pas ? Donc là, Paul part de la stratégie militaire à la stratégie spirituelle. À chaque fois, il associe un équipement du soldat à une arme spirituelle. Parce que Paul enseigne que le chrétien a des armes spirituelles à sa portée. Il a reçu son équipement comme un bon soldat. En bon instructeur, Paul va déjà commencer par remonter le moral des troupes. Ce qui est important, une troupe avec un bon moral, des chrétiens avec un bon moral, bien équipés. Paul sous-entend qu'un Éphésien chrétien sans protection est un Éphésien chrétien mort. Un Éphésien chrétien sans protection est un Éphésien chrétien mort. qui n'a pas su se défendre, qui n'a pas su utiliser les armes que Dieu met à sa portée, à son service. Tenir ferme dans leur assurance en l'Éternel, dans leur foi même, afin qu'elle ne soit pas, afin qu'elle soit inébranlable. Paul avait ressenti que les Éphésiens avaient besoin de se replacer dans la confiance en l'Éternel, et pas comme une armée en déroute, pas comme chacun de son côté, pas comme l'un qui court devant, l'autre qui court derrière, l'autre qui se cache sous les rochers, l'autre qui va chercher un refuge dans les arbres. Paul mobilise sa troupe comme une armée. Une armée, c'est un ensemble. Certes, c'est un ensemble d'individus, mais dans un ordre. Alors, il énumère l'équipement à la portée du chrétien. Il parle de ceinture, de cuirasse, de chaussures, de bouclier, de casque. Ça, c'est l'équipement défensif du chrétien, vous avez remarqué. Il y a une chose qui est à noter aussi, c'est que il n'y a pas de cuirasse dans le dos. Ça veut dire qu'on ne tourne jamais le dos à son adversaire. C'est très intéressant. Toujours faire face à l'ennemi. Au verset 18, après avoir pris conscience de la qualité d'un bon équipement, Paul exhorte les Éphésiens à la prière, à la supplication avec une entière persévérance. C'est la suite de notre lecture. Hein. Ce n'est pas comme s'il y avait une fin dans l'épreuve, bien au contraire. Elle doit produire la persévérance. La prière pour soi, mais aussi pour les autres. Et elle s'adresse à tous les chrétiens, Éphésiens, car tous sont concernés. Moi, ce que j'ai appris à l'armée, en tout cas, c'est que sans chef, c'est l'anarchie. Chacun pense et fait ce qu'il veut, ce qui lui passe par la tête, selon sa décision. Et cela se traduit par l'absence de décision, de cohésion, de directive, d'entraînement et d'enseignement. Parfois, dans les combats que l'on simulait à l'armée, on se réfugiait à côté du chef pour se sentir en sécurité, un point de repère, pour qu'il nous dise ce que nous devons faire, à quel moment le faire, de quelle manière. Parce que lui, il a l'expérience de cela, pour nous enseigner, pour nous donner les directives. Puis on se dit, le chef nous protégera, parce que le chef est fort. On donne presque un pouvoir surnaturel au chef. Seulement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans une bataille, la première personne qui est visée, c'est le chef. Pourquoi ? Parce que sans chef, c'est le désordre, c'est la débandade. Et si le chef s'enfuit ou se trompe, c'est tout le monde qui s'enfuit et se trompe. Des conflits ont même éclaté entre chrétiens parce que l'un pensait suivre Paul tandis que d'autres voulaient suivre Barnabas. Mais ni Paul, ni les anciens, ni les serviteurs de Dieu ne sont là comme des boucliers, ni comme, je vais utiliser cette image, comme paratonnerre. Quand la foudre tombe, il y a un paratonnerre. C'est lui qui absorbe l'énergie, ça empêche les dégâts et tous ceux qui sont autour sont saufs. Non, un chef spirituel, appelons ça comme ça, ce n'est pas un paratonnerre. Ce n'est pas lui qui se prend tous les coups pour éviter aux autres de ne pas en prendre. Et puis s'il se fait brûler par la foudre, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Mais il ne reste plus personne, hein, parce que tout le monde se sauve. Paul incite les chrétiens à faire la guerre contre le mal pour avoir la paix avec Dieu. Parce que si aussi quelques chrétiens seulement luttent, les autres vont être tranquilles. Mais Satan, il va se concentrer sur les quelques personnes qui luttent pour justement les faire tomber. Et après, ce qui va rester aux autres, plus rien. Plus de, on va dire, plus de points de repère physique. Si le chef est tombé, alors moi, que puis-je faire? Je ne peux rien faire. Je ne peux plus rien faire, je suis perdu. La prière est importante pour la défense. L'intercession est primordiale pour vaincre l'ennemi. Et Paul encourage là les Éphésiens à progresser. Pourquoi? Parce que le propre du chrétien, c'est progresser. On va revenir à cette image de soldat. Quand on arrive à l'armée, on ne sait rien. On ne connaît pas les techniques, on ne connaît pas la tactique, et à la limite, on ne saurait pas quoi faire. Donc on le voit, pendant 2 mois, on nous a enseigné. On nous a enseigné à se protéger, creuser des trous, mettre des branchages, être discret, ne pas être vu, ne pas être pris. Et puis on nous a appris à savoir se déplacer pour aller vers l'ennemi sans se faire repérer. Et on nous a appris à tirer. Avec différentes armes, et on nous a montré les différentes étapes pour pouvoir arriver à être considéré comme un bon soldat. Ben voilà, le chrétien passe aussi par ces différentes étapes. Il doit être enseigné. Il doit être exhorté. On doit lui expliquer certaines choses afin qu'il rentre dans, je dirais, le mouvement d'un chrétien en mouvement, en progression. Pas pour attaquer les autres, hein, vous avez compris, ni pour attaquer Dieu, hein, mais c'est pour se défendre et attaquer l'adversaire. Persévérer, c'est l'objectif du chrétien. Si vous persévérez, vous ne chuterez jamais. Si vous ne persévérez pas, vous chuterez. C'est une assurance aussi. Et Paul aux Hébreux 10, il dit « Ne perdez donc pas votre assurance, car une grande récompense lui est réservée. » En plus, Paul dit « Et rendez-vous compte, c'est qu'à la fin, il va y avoir une médaille. » C'est vrai, quand on est soldat, si on a bien fait son devoir, on a bien rempli son devoir, on mérite et on obtient une médaille. Ça veut dire qu'on a été reconnu pour sa persévérance, pour la qualité de son entraînement. Et c'est quelque chose. C'est quelque chose pour soi, parce qu'on s'est dit, mais j'ai cru, j'ai vu, j'ai vaincu. Et pour les autres aussi. Ils disent, si lui, il y arrive, moi aussi, je peux y arriver. Mais si personne n'a de médaille, c'est pas très encourageant pour personne. Paul avait peur que les Éphésiens, oubliant de persévérer, ne chutent et deviennent des proies faciles à Satan, bien sûr. Quel beau rôle pour lui. Mais aussi à se préserver des faux prophètes. Parce qu'ils seront équipés pour comprendre ce qu'on vient leur enseigner, comme vous, cet après-midi. Vous êtes avertis de ce que vous entendez. Et je ne vais pas dire libre à vous, mais je vous encourage fortement à... Vous avez en plus la possibilité, l'opportunité, et l'avantage de pouvoir réécouter ce message, de dire, est-ce que tout ce qu'a raconté le prédicateur, ça se trouve bien dans la Bible? C'est votre devoir aussi, de ne pas vous faire tromper. Et puis ça permet aussi d'éviter les divisions, qui est important aussi. C'est la confiance qui permet d'aller plus loin dans la connaissance. Nous savons que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Qu'est-ce qu'un pèlerin? Quelqu'un qui va d'un endroit à un autre, mais avec un but précis. Est-ce que nous sommes les pèlerins du Seigneur? Est-ce que nous savons vers quel but nous allons? Ah, c'est pas un but de dire, je prends mon sac à dos, je pars à pied, et puis... je vais traverser toute l'Europe. Là, le Seigneur nous voit autrement, comme d'autres pèlerins. Hein, plutôt, au lieu de regarder droit devant soi, il regarde le chemin qui les mène vers le ciel, vers le paradis. vers la rencontre avec notre Seigneur, avec notre chef suprême, celui qui ne se trompe jamais. Ça, il faut le savoir. C'est même le meilleur des généraux des armées n'arrive pas à la cheville de notre Dieu. Amen. Et ça, c'est la plus belle des assurances. Notre corps nous rappelle que nous sommes de cette terre, de cette nature de péché, faible de chair, devant lutter contre notre vieille nature, notre vieille nature d'Adam, pour qu'elle ne nous domine pas. Et notre âme nous rappelle que Dieu est notre Créateur et notre Sauveur. Que nous ayons un temps d'épreuve à passer ici-bas, certes, un temps de lutte, un temps de guerre, où là nous sommes sur la défensive parce qu'on reçoit des flèches de partout. Là on esquive. Mais à un moment donné, comme un bon soldat, il y en a assez d'esquiver. Il faut attaquer. Il faut se délivrer. Il faut écraser l'adversaire. Comme David et Goliath. David est sorti devant Goliath. Le peuple d'Israël n'a pas attendu en disant « Tiens, ben Goliath, viens, puis quand tu seras arrivé chez nous, ben on verra ce qu'on va faire. » Non, David est sorti à la rencontre de Goliath. Dieu teste notre confiance en lui par diverses épreuves pour savoir si nous tenons ferme, si nous avons compris ce qu'il y a dans sa parole, que nous pouvons nous soutenir à lui, que nous pouvons vaincre avec lui, pour nous permettre de passer différentes épreuves. Comme pour notre cursus universitaire, comme dans notre travail, il y a des étapes, il y a des examens, il y a des échelons, et ainsi de suite. Comme pour moi, bon soldat, quand j'étais à l'armée, il y a des tests. Il y a des tests psychotechniques, puis après il y a des tests physiques, des tests d'aptitude. Comment va-t-il réagir? Et si tu passes, on te donne une autre mission. Moi, à l'armée, à un moment donné, je suis arrivé, j'étais simple soldat, et puis après je me suis retrouvé instructeur. Vous imaginez un peu. J'étais le plus petit de la troupe, j'avais des Goliaths en face de moi, mais j'étais leur chef. Et ça se passait bien. Parce qu'un chef doit se faire respecter. Voilà. Le Seigneur aussi sait se faire respecter. C'est pour ça qu'il y a ces épreuves dans nos vies. Pour savoir si, déjà, nous pouvons être médaillés, et qu'à l'étape suivante, nous serons médaillés, et qu'à l'étape suivante, nous serons médaillés. La persévérance et la confiance ne sont pas des vertus, hein. À la mode de nos jours, hein, loin de là. On préfère râler, on préfère pester, que d'agir dans la confiance en Dieu. Abraham, il était prêt à sacrifier son fils, allant jusqu'à presque baisser l'arme sur son fils. Et le Seigneur ne l'a pas permis. Il a passé l'épreuve. S'il n'avait pas été jusque-là, il n'aurait pas été. Et vous connaissez la suite de l'histoire d'Abraham. Et le Seigneur a dit, ben, voilà un homme en qui j'ai confiance. Parce que je sais que dans l'épreuve, il va me faire confiance jusqu'au bout, jusqu'à ce que moi j'intervienne. Je prenne la suite, et là ça va barder pour les autres. Mais s'il n'y a personne dans l'armée du Seigneur comme ça, s'il n'y a pas de chef, s'il n'y a pas de généraux, s'il n'y a pas de vaillants soldats, qu'est-ce que le Seigneur va penser de nous? Mais qu'est-ce que c'est que cette armée que j'ai là? Là, ils sont gentils, c'est des gentils chrétiens. Est-ce que c'est ça que l'image que l'on veut donner à notre Dieu? Je suis un gentil petit chrétien. Ah, je vais à l'église le dimanche, je fais ma prière, je lis ma Bible, j'embête personne. Satan n'a pas besoin de venir me chercher des poux dans la tête. Hein. Je suis là, je fais mon petit truc, tranquille. Par contre, dès qu'il va y avoir un petit coup de vent, pouf, par terre. Parce qu'il n'y aura pas eu cet engagement. L'engagement dans notre vie, mais aussi l'engagement dans la vie de l'Église. Il faut des gens engagés dans l'Église. Et je dirais, chaque chrétien, moi quand j'enseignais dans mon Église, je disais, mais chaque chrétien, c'est un chef. Chaque chrétien est un chef. C'est pas comme dans la vie civile, hein, il ne peut pas y avoir que des chefs. Mais chaque chrétien dans une église doit être chef. Chacun doit se sentir concerné par l'engagement. Donc je disais que les épreuves sont nécessaires pour notre croissance, pour que nous quittions le lait. Au début, on ne connaît pas la parole de Dieu. Et puis, petit à petit, on évolue, on grandit, on découvre, on expérimente. On apprend à faire confiance à Dieu. C'est probablement l'étape la plus difficile, faire confiance à Dieu. Et savoir respecter le temps de Dieu. Seigneur, ton chrono, je viens te prier, tu me réponds dans 5 minutes, s'il te plaît. Trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur n'écoute pas ma parole? N'écoute pas mes prières, pourtant j'étais sincère. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur, c'est pas une machine à sous, un distributeur. C'est pas du tout ça. Donc là, il faut changer d'attitude. Le Seigneur peut mettre des années à nous répondre. Parce que nous n'avons pas montré la preuve de notre persévérance. Donc ça va durer plus longtemps, jusqu'à ce que nous l'ayons compris. On peut dans notre vie chrétienne, voilà, c'est pas un escalier aussi bien taillé et avec la hauteur des marches et la profondeur des marches au millimètre. Je pense que si on avait l'image de notre vie chrétienne, ce serait un drôle d'escalier. Parfois avec des grandes marches, avec des petites montées, où là, hop, ça va vite, on passe. Et puis parfois avec... L'étape suivante, elle est balèze. Oui, mais moi, je veux aller là-haut. Je veux voir ce qu'il y a. Est-ce que nous sommes dans la position de se dire que puisque Dieu est souverain, qu'il prend soin de ses enfants, il s'occupe de tout. Ne soyons pas comme dans l'Apocalypse, au chapitre 3, versets 15-16, vous connaissez, je vous laisse le lire. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons froids, ni que nous soyons tièdes, mais que nous soyons bouillants. Soyons bouillants, bouillants pour lui. Il faut que je m'équipe de la parole de Dieu, de la prière, de la persévérance. Il y a un verset dans Noémie au chapitre 4, au verset 6. J'aime bien cette image. Nous rebâtîmes la muraille, par la muraille de Jérusalem, et le peuple prit à cœur ce travail. Tout le monde s'y est mis, tout le monde s'est uni. Mais chacun selon ses capacités. Hein. On n'a pas demandé à tout le monde de soulever des grosses pierres. Il y a des gens qui apportaient de l'eau, des gens qui apportaient du pain, des gens qui surveillaient derrière, et tout le monde était utile pour que la muraille se construise. Il faut des gens de terrain et il faut des gens d'arrière-plan, tout aussi important. Soyons pas, je vous encourage à ne pas être des chrétiens anonymes, et surtout pas dans votre église, qu'on puisse dire oui. Un tel s'occupe de ça, un tel s'occupe de ça, un tel s'occupe de ça, un tel s'occupe de ça. Formidable, tout est pourvu. Combien de fois dans telle et telle église on entend « Nous avons besoin, il n'y a personne pour ceci, qu'est-ce qu'on va faire pour cela ?» C'est pas normal. C'est pas une armée du Seigneur. Où sont les soldats chrétiens? Et où sont les chrétiens soldats? Beaucoup de tâches ont été accomplies, je suis sûr, dans cette église depuis quelques années où je viens parmi vous. Il y a eu des évolutions, il y a eu des changements, il y a eu des conversions, il y a eu des baptêmes, il y a eu des engagements, Il y a beaucoup de tâches qui ont été accomplies, et il y en a encore beaucoup. Parce que chacun doit passer à l'étape supérieure. Déjà pour libérer la place qui est derrière, pour permettre aux autres de prendre, de monter dans le train, et après de devenir locomotive. Je terminerai sur ce verset dans Jude. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la puissance et l'autorité dès tous les temps passés, maintenant et pour toujours. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.